Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. En cette semaine qui a célébré la Journée internationale des droits des femmes, droits que nous défendons au quotidien ici sur RFI et dans ce magazine littéraire, l'émission de ce jour se devait, comme d'habitude donc, de mettre à l'honneur celles qui constituent la moitié de l'humanité, mais qui pourtant, hélas, ne sont pas toujours vues et entendues. Et je salue aussi la naissance d'une toute jeune maison d'édition nommée Dalva, en hommage à l'héroïne de Jim Harrison, créée par Juliette Ponce, dont le catalogue sera exclusivement féminin. Les premiers titres sont à paraître en mai et nous en reparlerons. Mais pour commencer, place à une femme oubliée de l'histoire et qui pourtant a été l'une des grandes figures de Vienne en Autriche au tournant du 19e et 20e siècle. Musicienne, libre d'esprit, très indépendante, elle a su tourner le dos au carcan social de son époque et mener son existence comme elle l'entendait, quitte à en payer le prix. Son nom, Nathalie Bauer-Lechner, qui était aussi auteure, et c'est ainsi qu'elle nous reste aujourd'hui grâce à ses textes, souvenirs, mais surtout ses carnets consacrés au musicien Gustav Mahler, dont elle a été très proche, amie, amante et confidente. Bonjour Evelyne Bloch-Dano.
Bonjour.
Après Madame Zola, Madame Proust, Le dernier amour de George Sand, sans oublier Une jeunesse de Marcel Proust, votre nouvelle biographie sort donc de l'ombre, cette inconnue remarquable, avec ce livre intitulé L'âme sœur, coédité par Stock et France Musique, et qui, à travers les liens très forts unissant Nathalie Bauer-Lechner et Mahler, fait le portrait d'une femme fascinante. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans son parcours? Le fait qu'elle ne soit plus connue aujourd'hui, qu'elle ait eu le courage d'une vie moderne, ou son amour de la musique, tout simplement?
Je crois que vous résumez assez bien tout ce qui peut toucher chez Nathalie Bauer-Lechner. Oui, elle est oubliée. Je dirais que lorsque vous dites que vous travaillez sur un sujet qui concerne une femme proche de Mahler, évidemment, on vous parle d'Alma.
Et
non pas sa femme, sa future épouse, enfin son épouse future par rapport à Nathalie. Et le plaisir et l'intérêt, c'est d'aller chercher comme ça des personnages qu'on a soit oubliés, soit qui sont restés, en effet, dans l'ombre. Mais c'est aussi sa personnalité. Son caractère, moi j'aime beaucoup sa franchise, son indépendance, vraiment cette volonté d'être libre, mais aussi de gagner sa vie en étant musicienne et en participant, ce qu'on a souvent oublié, à un quatuor de femmes, qui s'intitulait donc le quatuor Soldat Rugger, qui a eu un immense succès dans l'Europe de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Donc c'est un peu tout ça, toutes ces facettes qui m'ont intéressée chez Nathalie.
Donc elle naît en 1858 à Vienne, dans une famille bourgeoise, traditionnelle, père éditeur, mère au foyer. Et très vite, elle montre des dispositions musicales, mais en dépit d'une éducation paternelle assez progressiste pour l'époque, elle n'a pas le droit de faire d'études comme son frère. Et très jeune, elle se révolte contre cette injustice. De fait, est-ce qu'on peut dire que Nathalie est féministe dans un monde qui ne l'est pas du tout?
Oui, c'est vrai qu'elle l'est presque intrinsèquement, si on peut dire. Et ça va avec un souci d'égalité, je pense, chez elle, et également avec cette indépendance dont on a parlé. Alors le paradoxe, c'est qu'elle ne va pas à l'école, elle est éduquée, ainsi que ses sœurs, comme on le fait dans cette bourgeoisie, très tournée vers les arts, hein, la famille, malgré tout. Donc, elle est éduquée à la maison avec des précepteurs, mais elle va au conservatoire dès l'âge de 8 ans, conservatoire de musique de Vienne. Donc, vous voyez, il y a une sorte de paradoxe dans cette éducation musicale très poussée, qui va bien au-delà du simple apprentissage du piano ou du violon pour une petite fille. et ce qu'elle a regretté, c'est-à-dire l'impossibilité, en effet, d'aller à l'école, puis au lycée comme les garçons.
Alors, ce caractère un peu révolté, elle va l'avoir tout au long de sa vie, et même avec son expérience maritale, puisqu'elle épouse très jeune, à 17 ans, un homme plus âgé, Monsieur Bauer, donc, veuf avec trois petites filles, et qu'elle va quitter assez vite, finalement, quelques années plus tard, pour vivre seule. C'est très rare, n'est-ce pas, qu'une femme prenne une telle décision en Autriche à la fin du 19e siècle?
Oui, ça la met, ça aurait pu la mettre dans une situation de un peu de réprouvée, si vous voulez, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle vit tout de même dans un milieu particulier qui est un milieu d'artistes, d'intellectuels, de médecins aussi, de psychiatres. Donc toute cette avant-garde viennoise qui va dont on connaît les plus célèbres, hein, évidemment Sigmund Freud, un peu plus tard Stefan Zweig, Schnitzler, Arthur Schnitzler. Donc voilà, elle est dans ce milieu. Mais tout de même, elle trace sa route de façon, là encore, indépendante. Elle a élevé tout de même, durant quelques années, ses petites filles. Et puis, elle restera en lien avec elles. Mais elle revendique à la fois son indépendance et une passion qu'elle a pour un jeune philosophe. Passion partagée durant une dizaine d'années.
Alors on y arrive puisque en effet elle se consacre à la musique, le violon puis l'alto. Elle fréquente les cercles artistiques, elle a un amant et après quelques rencontres superficielles à des dîners où ils se croisent dans des soirées, Nathalie devient très proche de Gustav Mahler. Il a 2 ans de moins qu'elle, c'est un jeune prodige, compositeur incompris, chef d'orchestre adulé, au caractère bien trempé, pour ne pas dire cyclothymique, homme à femme. Quelle sera exactement la nature de leur relation qui va durer longtemps, néanmoins, jusqu'à la rupture plus tard, dont on parlera évidemment.
La toute première rencontre, elle se fait très tôt, puisqu'elle raconte qu'à l'âge de 18 ans, elle assiste à un concours de fin d'année du conservatoire, une répétition pour ce concours. Et là, elle est vraiment frappée, impressionnée par le très jeune Gustav Mahler. Il a 16 ans et qui se fait réprimander par le directeur de l'école au moment de faire écouter sa symphonie. Donc déjà, il y a eu ce germe. C'est-à-dire que ce qui est vraiment à l'origine, je dirais, de leur relation, c'est l'immense admiration qu'elle a pour Gustav Mahler. Et c'est ce qui va probablement engendrer, si vous voulez, enclencher la suite des événements. Et puis, petit à petit, donc elle le voit, comme vous l'avez dit, une ou deux fois, et puis elle le rejoint à Budapest, où il a proposé à ses amis de le rejoindre, et elle vit quelques jours proche de lui, ils font des grandes promenades, ils adorent tous les deux la nature, marcher, et bien sûr la musique, et c'est là que se crée un lien plus fort, qui au début, elle le dit, ce n'est pas une passion, c'est une sorte, on dirait, une amitié amoureuse, si vous voulez, un lien, elle dit, nous étions comme frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans tout ce qui les rapproche. Et ceci va se poursuivre. On peut dire que, en même temps, chez elle, il y a à l'évidence un amour très, très fort, très puissant, qui va petit à petit se développer. Et il faut dire aussi que de la part de Gustav Mahler, il y a, je dirais, une ambiguïté dans ses sentiments, une ambiguïté qui n'est pas forcément voulue, même s'il y a un côté un peu séducteur chez lui, mais qui est sans doute due aussi à une ambivalence, c'est-à-dire qu'il adore cette jeune femme, cette femme, il aime être avec elle, il aime se promener, ils vont passer toute leur, enfin pendant 10 ans les vacances ensemble, elle le rejoint à Hambourg, elle le rejoint un peu partout, donc ils se retrouvent, mais en même temps, je pense qu'il n'est pas dans les mêmes sentiments amoureux et passionnés qu'elle va petit à petit développer pour lui. Donc, leur relation va parfois trébucher, si vous voulez, sur ce décalage entre eux. Comme ça arrive, hein, ça arrive à des gens très bien. Donc, ça peut arriver. Mais le problème, c'est que à certains moments, eh bien, Gustav Mahler lui donne des gages d'attachement et elle peut bien sûr espérer tout espérer en sa compagnie. Et on peut dire qu'elle lui donne, tout. D'une certaine façon.
Elle lui donne tout, elle accepte tout, mais néanmoins, elle est suffisamment forte, Nathalie Bauer-Lechner, pour continuer sa vie professionnelle. Et comme vous le disiez, elle va intégrer cette magnifique formation, ce Quatuor Soldat Rugger, où elle joue de l'alto, faire cette tournée pendant plusieurs années en Europe, être reconnue. Gustav Mahler lui-même dit que vraiment, c'est une réussite exceptionnelle. Alors, à ma connaissance, elle n'a pas interprété les œuvres de son ami sur scène. Quel morceau pourriez-vous nous conseiller, Evelyne Bloch-Dano, pour illustrer à la fois le lien entre les deux et aussi le talent particulier de Nathalie Bauer-Lechner?
Alors, ils ont souvent joué ensemble, mais dans l'intimité. C'est-à-dire que Mahler joue du piano et elle l'accompagne au violon. Donc, j'ai pensé que peut-être l'Adagietto de la cinquième, qu'on connaît bien sûr sous sa forme orchestrale grâce à Mort à Venise, dans sa transcription pour musique de chambre avec juste un piano et un violon, nous donnerait peut-être une jolie idée, une idée assez douce et belle de ce que pouvait être leur relation, tout en sachant qu'hélas pour Nathalie, cet adagietto est consacré à Alma.
Et sur la musique de Gustav Mahler, nous reprenons sur RFI et dans Littérature sans frontières le fil de notre conversation avec Evelyne Bloch-Dano, auteure du livre intitulé « L'âme sœur », coédité par les éditions Stock et France Musique, une biographie consacrée à Nathalie Bauer-Lechner et de sa relation intime avec le musicien. Et j'ai même envie de dire la biographie d'une biographe, puisque Nathalie a été l'une des premières à écrire sur Mahler en notant régulièrement dans des carnets leurs conversations. Quel était son projet, selon vous? Est-ce qu'il s'agissait d'écrire pour ne pas oublier ces moments précieux ou écrire pour être publié et faire connaître Mahler sous un angle plus personnel?
Je pense que c'est en effet la seconde option qu'on peut retenir. C'est à la fois le faire connaître sur un plan plus personnel, puisque dans ses cahiers, elle raconte également leur séjour au bord du lac Attersee ou Wörthersee un peu plus tard. Enfin, bon, donc un côté vraiment plus personnel. Mais elle l'interroge aussi en musicienne. Elle l'interroge sur sa création, sur l'art de la composition. Donc c'est un document extraordinaire pour en tout cas les quatre premières symphonies, puisqu'il va s'y livrer, je dirais presque de façon technique, si vous voulez. Il donne beaucoup de clés sur sa conception de la musique et sur ce que peut être l'art, mais pas seulement, je dirais aussi les exigences, disons, d'un grand compositeur et d'un chef d'orchestre, car en effet, il faut rappeler qu'il est aussi un chef d'orchestre. Et ces cahiers, donc il y a eu au total 30 cahiers, probablement n'épargnaient pas non plus l'entourage de Mahler, parce que ça c'est le côté, moi qui me plaît, mais elle a un côté très direct, très franc, y compris concernant Mahler. Elle raconte des choses, si vous voulez, qui ne sont pas des critiques, mais qui sont des petites anecdotes. Bon,
parfois trivial, en effet.
Parfois trivial, voilà. C'est vraiment avec un souci de vérité, de justesse qu'elle raconte tout ça. Donc, d'une certaine manière, oui, elle est biographe, même si elle n'envisageait pas, vous voyez, de reconstruire, je pense, l'ensemble pour faire une biographie. Pour elle, c'est un témoignage, c'est une manière de léguer à la postérité, au fond, toute cette richesse qu'elle perçoit chez Mahler, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est vraiment peut-être la première, parce qu'il n'a que 16 ans à l'époque, enfin l'une des toutes premières personnes à déceler chez lui ce qu'elle estime être du génie.
Et ce sont des documents d'autant plus précieux qu'en effet, ils sont témoins directement de la naissance ou de l'épanouissement de ce génie, avec d'ailleurs toutes les impasses et les incompréhensions de l'époque, hein, parce que Mahler n'est pas un compositeur aussi reconnu qu'il l'est aujourd'hui, et précieux parce que on découvre un homme aussi sous des facettes qui sont pas forcément hagiographiques, c'est un homme tyrannique, mais avec lequel elle partageait donc ce goût formidable de la nature, les bains dans les lacs gelés, les marches, la bicyclette, le vélo. Et là, on se dit, en vous lisant Evelyn Bloch-Dano, que encore une fois, c'est une avant-gardiste dans ce domaine de l'activité physique et de l'hygiénisme réservé aux hommes.
Oui, ça, c'est quelque chose de très important pour elle, la santé du corps, la liberté du corps. Donc, elle admirait beaucoup George Sand et elle
fait
référence.
Fait un point commun.
Voilà, oui, exactement. Oui, j'étais contente quand j'ai vu qu'elle était passionnée par Histoire de ma vie de George Sand. Rosa Bonheur aussi qu'elle cite à propos des pantalons.
C'est ça.
Pour dire que
deux femmes qui font le choix de porter des pantalons.
Oui, oui.
Tout simplement parce que c'est tellement plus facile de se mouvoir en pantalon plutôt qu'avec les corsets.
Exactement. Elle dit aussi, elle parle des bottines qui, il faut se rappeler, hein, ces petites bottines très serrées qu'on porte, que les femmes portent à l'époque, lacées. Bon, donc elle a cette sorte de combat. Elle y tient beaucoup parce que dans son livre, dans un livre qu'elle va publier qui s'appelle Fragment, si on traduit, il n'est pas traduit en français, mais bon, eh bien, elle consacre des chapitres chapitre entier à l'hygiène, à la santé, à quelque chose qui... Ça m'a beaucoup amusée parce que c'est très contemporain aujourd'hui. Et dans la façon, même l'alimentation, une alimentation saine, à tendance plutôt végétarienne, se baigner nu. Voilà, enfin, il y a tout un courant comme ça de choses qui concernent, je dirais, ce qu'il y a de plus concret, vous voyez. Même pour la musique, elle dit qu'il faut, si on joue du violon, il faut pas être serré dans des vêtements, des corsets, des choses comme ça. Il faut pouvoir respirer, inspirer. La gymnastique, enfin bon, il y a tout un pan comme ça de sa vie et qu'elle applique. Et en particulier avec Gustav Mahler, ils prennent des bains de soleil, ils se baignent dans les lacs alors qu'ils sont quand même assez frisquet, il faut bien le dire.
Vous en savez quelque chose? Vous êtes allé sur ces traces?
Ah oui, j'ai suivi. Alors, j'ai suivi, je suis allée à Vienne, je suis allée, ce que j'ai adoré aussi en République tchèque, dans la ville natale de Gustav Mahler, mais aussi à Jihlava, qui s'appelait Iglau à l'époque, où il a grandi, où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans.
Très pauvre.
Oui, oui. Et donc, tous ces lieux. Et puis ensuite, au bord des lacs, en effet, où ils ont passé leurs étés. Donc c'était à la fois un plaisir, je dirais, de les suivre, mais on comprend mieux, si vous voulez, aussi les personnages. Moi, j'aime beaucoup suivre mes personnages dans les lieux qu'ils ont connus, dans la mesure du possible. Ça n'est pas indispensable, mais c'est comme si on les approchait différemment. Et surtout, peut-être, avec un petit peu plus de justesse. Donc, voilà.
Pour revenir à ces carnets donc écrits par Nathalie Bauer-Lechner, ils étaient une trentaine. À vous lire, Evelyn Bloch-Dano, on découvre qu'il n'en reste que 9. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, Nathalie faisait beaucoup circuler ses cahiers. Donc, elle a eu contre elle l'entourage de Mahler, son épouse, donc Alma, et aussi sa sœur, Justine. Et après la mort de Mahler, on s'est employé à l'empêcher, si vous voulez, de les publier. Et de toute façon, elle l'a senti, donc elle a envisagé qu'on publie ses carnets 20 ans après sa mort. Mais finalement, c'est 3 ans après sa mort qu'une première version, très expurgée, a été publiée. Puis, en 1984, il y a eu une deuxième version, mais très également qui ne comprend pas l'ensemble. Et surtout, ces cahiers ont disparu en partie. Il en reste 9 à ma connaissance. Peut-être y en a-t-il d'autres qui vont surgir ou ressurgir. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont conservés à la médiathèque musicale Mahler à Paris et dans une chambre forte avec tous les documents qui concernent Gustav Mahler. Et donc ces cahiers sont ce qui nous permet de suivre avec vraiment un peu plus d'ampleur, si vous voulez, sa pensée.
Malheureux, néanmoins, un peu à l'image de la fin de leur relation, puisque janvier 1902 marque la fin de leur histoire. Racontez-nous pourquoi, Evelyn Bloch-Dano.
Eh bien, la rencontre de Gustav Mahler avec Alma Schindler, celle qui est encore Alma Schindler, qui est beaucoup plus jeune, vraiment, je crois, génère un coup de foudre de la part de Gustav Mahler. Et donc, les fiançailles vont suivre très vite. Et les cahiers de Nathalie s'arrêtent de façon très abrupte quelques semaines après ses fiançailles, en disant, voilà, Mahler s'est fiancé, bon, et elle arrête. Et ils ne se verront plus jamais. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas parler l'un de l'autre. Évidemment, Gustav Mahler, elle entend parler de lui parce qu'il est immensément célèbre, mais lui aussi parce qu'il continue à avoir des amis communs, si vous voulez, qui font un peu l'intermédiaire. Mais sa vie, alors dans les biographies de Mahler, on ne parle plus de Nathalie à partir du moment où elle ne voit plus Mahler, c'est normal. Mais en fait, sa vie ne s'arrête pas. Et ce qui m'a vraiment passionnée, c'est de chercher sa trace et de retrouver en tout cas en partie sa trace après la rupture avec Mahler.
Soit 20 ans d'ailleurs.
20 ans, exactement. En 1901, il cesse de se voir et elle meurt en 1921. Donc 20 ans, c'est pas rien. Et pour l'un, enfin, lui meurt en 1911.
D'un arrêt
donc
cardiaque.
10 ans avant, exactement.
À l'âge précoce voilà, de 51 ans.
51 ans. Et alors la suite de sa vie, c'est à la fois sa vie professionnelle, puisqu'elle va jouer avec le Quatuor pendant presque 20 ans, et elle continue aussi à jouer pendant un certain temps en solo, si vous voulez, à donner des petits concerts. Et puis il va y avoir la guerre de 14-18, qui en Autriche a été particulièrement sanglante
et meurtrière,
et dont les conséquences aussi vont être très rudes. Donc là, on la voit petit à petit, comme beaucoup de Viennois et d'Autrichiens, tomber dans la misère, en tout cas dans une grande pauvreté. Et elle va être hospitalisée dans un hôpital psychiatrique, probablement... Je dis probablement parce que j'ai pas le diagnostic exact, mais d'après ce qu'elle dit dans sa correspondance, il semblerait que ce soit un genre de dépression, si vous voulez, dans lequel elle a sombré. Et elle continue assez difficilement, malgré tout, sa vie. Mais elle garde, et c'est ça qui est tellement touchant, c'est qu'elle garde une sorte de gaieté, de foi dans l'avenir, de foi dans la musique. Elle donne des leçons d'alto à l'Institut Mozart de Salzbourg un an avant sa mort. Bon, voilà, elle continue quand même son chemin. Elle a des amants, parce qu'il ne faut pas du tout non plus négliger ce côté-là. Elle tenait beaucoup à... je dirais, à tout cet aspect, sensuel de l'amour. Et voilà, donc elle continue sa vie. Nous, ça paraît un petit peu triste, mais en même temps,
c'est une vie accomplie.
C'est une vie accomplie.
C'est une vie assumée.
Oui, absolument assumée, avec ses amis, avec aussi le féminisme, parce qu'elle est... alors. C'est aussi très intéressant, je trouve, parce que c'est un petit peu les contradictions qu'il peut y avoir entre une femme qui est...
qui consacre sa vie à un homme qui ne lui rend pas
oui,
beaucoup, si ce n'est de l'ingratitude.
Mais elle en est tout à fait consciente. Et son féminisme vraiment très affirmé, et dans tous les domaines, et où elle a des idées sur la politique et sur le mariage, qui doit être un mariage, selon elle, à l'essai pendant 2 ans, etc. Et sur les femmes en général, qui doivent être égales aux hommes.
On va finir sur cette très belle phrase. Merci beaucoup, Evelyne Bloch-Dano. Et surtout, je voudrais signaler à nos auditrices et à nos auditeurs que pour en savoir plus, parce que hélas, ici, on n'a fait qu'effleurer cette vie passionnante, qu'ils peuvent retrouver l'âme sœur sur France Musique grâce à une série de 5 émissions que vous avez proposées, Evelyne Bloch-Dano, qui sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. 5 épisodes d'une heure, où à la fois vous racontez cette femme, son lien avec Mahler, mais aussi où on entend les œuvres, pas que celles de Mahler d'ailleurs, les œuvres sublimes de l'époque. Oui. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je rappelle que le livre est disponible en librairie, bien entendu, L'âme sœur, coédité par les éditions Stock et France Musique.
Merci.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.
Tout à l'heure sur